C'était il y a un an, en avril 2023, avec ce chiffre qui donnait le tournis. 1 milliard 431 millions, l'Inde devenait le pays le plus peuplé de la planète, devant la Chine. Imaginez, il rassemble à lui seul plus d'habitants que tout le continent européen, mais sur environ 3 fois moins de surface. Et depuis plusieurs jours, j'enregistre cet épisode le 26 avril, ses habitants votent. Enfin, ils sont environ 970 millions à pouvoir le faire, les citoyens âgés de 18 ans et plus. C'est un scrutin législatif qui s'étale sur 6 semaines et pour lequel Narendra Modi, qui est Premier ministre depuis 2014, brigue un troisième mandat. Une grande majorité d'experts le donne gagnant. Mais le doute est-il permis ? Je pose la question à Cléa Broderst, journaliste au service international de RFI. Elle rentre de reportage, elle est allée à la rencontre des électeurs. Les chiffres de ce scrutin aussi donnent le tournis. 1 million de bureaux de vote, 2 millions de machines à voter électroniques ou encore 12 millions de personnes pour surveiller tout ce processus. Au total, le Parlement compte 543 députés. Il compose la Chambre basse qui est renouvelée tous les 5 ans. Narendra Modi, c'est l'homme du BJP, le parti du peuple indien. Il se réclame de l'Hindutva, un courant idéologique suprémaciste, et entend faire de l'Inde, pays laïque et multiconfessionnel, une nation hindoue. Bonjour Cléa.
Bonjour Alexandra.
Ces reportages en Inde, tout ça, ça a duré une dizaine de jours, je crois. Il commence où ? Ton carnet de commandes, c'était lequel ?
Alors, l'idée, c'était d'être en Inde une bonne semaine avant le début du vote qui débutait le 19 avril. Et donc, le 19, d'être dans un bureau de vote. Mais on avait vraiment l'envie de faire un petit parcours, de voir un peu parmi les différentes régions, les différents États surtout, voir ce que les habitants votaient et pour qui ils votaient dans chacune de leurs circonscriptions. Donc, nous, on a fait le choix d'aller d'est en ouest. Donc, j'ai commencé au Bengale occidental, à Calcutta, qui est réputé pour être une poche de résistance au BJP et à Narendra Modi, pour ensuite aller à Benares, dans l'Uttar Pradesh, qui est au contraire le fief de Modi, et pour ensuite être à New Delhi, pas très loin d'un bureau de vote qui se lançait le 19 avril.
Donc l'idée, c'était de prendre un petit peu le pouls de cette société indienne avant les élections. Quand je t'ai appelé à ton retour, tu m'as dit, entre ce à quoi je m'attendais, ce que j'ai vu durant ces 10 jours, il y a une vraie différence. Je suis partie avec la quasi-certitude que le vote pour Modi, il était acquis. Là, aujourd'hui, j'en suis moins certaine. Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Alors peut-être que le fait de commencer justement au Bengale occidental, donc dans cette poche de résistance, et de voir vraiment cette diversité politique, c'est très très multiculturel. Le Bengale occidental a cette particularité aussi d'être à 30%, il y a des minorités, 27% sont des musulmans, donc quand même les minorités contre lesquelles le gouvernement de Modi et les idéaux de Modi vont à l'encontre. Donc forcément, quand c'est les premiers qu'on va chercher, on s'attend à ce qu'il y ait, comme on disait, une résistance au BJP.
Et j'avais consacré un épisode à cette stigmatisation des musulmans avec notre correspondant Sébastien Farsi.
Voilà. Et effectivement, c'est très intéressant de voir une fois qu'on se retrouve devant les habitants, et pas que les musulmans. Pour le coup, je suis aussi allée voir, il y a plusieurs parties au Bengale occidental qui sont assez présents. Donc, pour l'instant, pour te donner une petite idée, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est très précis et c'est, comme je disais, très vaste, cette politique indienne fascinante. Mais c'est le TMC qui gouverne l'état du Bengale occidental. Donc ça, c'est suite aux élections qui ont eu lieu en 2021. Donc ça veut dire que chaque circonscription va avoir son représentant. Et là, les Indiens votent pour les députés qui vont ensuite, eux, décider du Premier ministre. Donc, ce qui se passe au Bengale occidental, c'est que quand je suis allée voir les communistes ou le TMC ou le BJP, c'est chacun quand même dans des petites circonscriptions. Et c'est ça qui était hyper intéressant, c'est de voir à quel point il y a cette fascination Modi, c'est soit on l'adore, soit on le déteste. C'est très bizarre. Déjà, c'est hyper polarisé. Mais c'est aussi de voir que là, ça s'est quand même bien resserré sur les enjeux qu'il y a à côté de chez soi, en fait. Et je pense que moi, je ne m'attendais pas forcément à ça en y allant, en me disant, comme je te disais, ça va être soit pour, soit contre. Et je m'attendais à une majorité de pour maudits. Et j'en ai rencontré. Effectivement, il y a quand même des gens qui nous disent, oh là là, c'est le saint, c'est le gardien de la nation. C'est un grand culte quand même. Mais effectivement, on trouve aussi des parties complètement diverses, pas forcément des minorités, mais qui ont envie de donner leur voix et qui ont envie de changement. Et c'est là où je me suis dit, ah, c'est peut-être pas si gagné que ça, finalement.
Être anti-maudit en 2024, en tout cas dans ce coin-là, ça veut dire quoi ?
C'est compliqué. Alors, encore une fois, parce que c'est pas uniquement les minorités qui me disent ça, mais c'est surtout, en fait, cette idée qu'il y a une impression, voire... C'est possible que ce soit le cas, je n'ai pas vécu en Inde ces 10 dernières années, mais un sentiment de repli sur soi. Tu le disais, cette volonté d'une société très hindoue. Et ça, ça plaît pas à tout le monde, même aux hindous, en fait, qui finalement, moi, tous ceux avec qui je discutais, qui étaient anti-maudits, encore une fois, on va quand même mettre des grosses pincettes, disaient, mais nous, ce qu'on aime dans notre pays, ce qu'on aime dans notre culture, c'est le fait que c'est multiculturel, que c'est divers, qu'on fait tous partie de cette société et qu'on ne devrait pas avoir de différence. Donc, il y a une grande peur, moi, que j'ai trouvée aussi bien à Calcutta qu'à Bénarès qu'à New Delhi, quand je discutais avec les gens, c'est cette frayeur que si Modi gagne avec une grande majorité, il pourrait éventuellement changer la Constitution. Changer la Constitution, pourquoi ? Pour faire en sorte que l'Inde ne soit plus un pays séculaire. Et ça, que ce soit les hindous, les musulmans, les chrétiens, enfin, ils nous disent tous, on ne veut pas que la face de l'Inde change. On veut garder ce multiculturalisme et on ne veut pas que l'Inde devienne séculaire.
Et pourtant, on est sur un système de caste
exactement.
En Inde. C'est assez paradoxal.
C'est
en fait.
Très paradoxal. Mais... il y a ce côté, non, en fait, pour nous, c'est un peu notre liberté principale. C'est ce qui fait que l'Inde est l'Inde aujourd'hui, c'est cette diversité. Et on ne veut pas que ce soit entériné, qu'elle ne l'ait plus.
Tu m'as dit, il y a beaucoup, beaucoup de partis en Inde. Est-ce qu'il y en a un principalement qui s'oppose à Modi ou pas dans ces élections ?
Alors, si. Et en fait, il y a justement une sorte de ralliement. Il y a... pour te dire exactement, j'ai repris mes notes parce que c'est compliqué. Il y a deux coalitions principales qui s'affrontent pour diriger la nation, donc le BJP de Narendra Modi, et une coalition de 26 partis qui forment l'Indian National Developmental Inclusive Alliance, qui forme l'acronyme India, dirigée par le principal parti d'opposition, le Congrès National India. Et ça, son représentant, c'est Rahul Gandhi. Donc, vraiment, le 4 juin, ce sera soit Modi, soit Gandhi. Donc, il y a eu quand même, même les petits partis que je rencontrais à Calcutta, et dans la région de Calcutta, que ce soit le TMC, les communistes, vont finir par se rallier à cet India, parce que l'union fait la force, et qu'il y a une réelle envie de changement, qui, pour ça, il faut s'unir, tout simplement, et faire front.
Là, dans ce Bengale occidental, donc si je comprends bien, il y a quand même une petite poche de résistance. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs dans le pays ?
Oui, il y en a ailleurs. Moi, c'est vrai que parce qu'en 10 jours, l'Inde est tellement vaste que j'ai pas pu aller dans plein d'endroits différents. Mais quand je suis allée à Bénarès ensuite, qui est pourtant le fief de Modi, et il y a aussi des gens qui vont voter contre Modi, qui nous disent qu'ils vont voter contre Modi. Donc, comme partout, finalement. Et je pense que cet ultranationalisme qui s'est développé dans le gouvernement du BJP ces 10 dernières années pousse certaines personnes qui, je pense, ont certainement voté Modi il y a 5 ans. Ça va les pousser à réfléchir leur vote cette année, parce qu'il y a cette peur-là, en fait. Cette peur du changement de la Constitution, cette peur aussi de mettre les minorités un peu trop sur les bas-côtés de la société. Et ça, ils ne le souhaitent vraiment pas. En tout cas, ceux qui ne veulent pas de cet ultranationalisme prôné par le parti de Modi.
Bon, mais à Bénarès, j'imagine qu'on est quand même dans une toute autre ambiance. On est quand même dans le fief de Narendra Modi.
Alors là, Modi est partout. Hein. On a des photos de Modi sur les murs, sur les triporteurs. C'est hallucinant. Modi est partout. Et comme je te dis tout à l'heure, il y a un vrai culte de sa personnalité.
Qui l'entretient ?
Complètement entretenu. Et c'est rigolo parce que je discutais avec un analyste politique de Bénarès qui est complètement pro-Modi, qui nous expliquait que il était idéal pour diriger la nation, puisqu'il n'avait pas de famille, il était entièrement consacré à la politique, et que du coup, ça en faisait un leader, un dirigeant prédisposé. Mais j'ai trouvé ça un peu étrange, tu vois, de se dire dans une société où justement le mariage est présent, l'envie
la
de famille,
la famille
compte. C'était intéressant de voir aussi cet angle-là, de se dire, ah bah tiens, ça, c'est ça qui intrigue un peu. Et je pense que ça participe au culte, quelque part, de sa personnalité, d'être un peu différent, finalement, mais d'être un bon leader consacré à 2000% à sa politique, finalement.
Maudit, donc, il se présente pour un troisième mandat, on l'a dit. Les principaux défis auxquels il est confronté aujourd'hui, ce sont lesquels ? Je rappelle que l'Inde, ça reste un pays extrêmement jeune, 40% de la population à moins de 25 ans.
Alors justement, Maudit peut se vanter d'une chose, c'est d'avoir, passez-moi l'expression, mais passé la seconde pour le pays. C'est-à-dire que l'Inde aujourd'hui a quand même une grande place sur le marché mondial, dans l'économie. Il y a eu un boom, ça c'est certain. Les autres choses que nous pointent les pro ou contre Maudit, mais qui ont quand même ce sens de, on peut quand même constater et regarder ce qui s'est passé, c'est le fait que les infrastructures, pareil, on a passé la seconde en fait. Il y a tout ce
les
qui
routes.
Est les routes, les trains. Justement, moi, j'ai fait un reportage dans le train entre Benares et New Delhi, ce nouveau train express régional, et c'était incroyable. Effectivement, c'est un autre confort.
Par rapport à la représentation qu'on a généralement dans les médias, voire dans les films aussi.
Et dans les films, exactement. Il y a cette image du on est tous entassés les uns sur les autres et puis on ne respire pas, on passe la tête par les fenêtres. Pas du tout. Là, on n'est pas dans un TGV, mais c'est la prochaine étape. Vraiment. Donc, c'était chouette. Et je pense que ça, c'est le genre de choses qui donne une image de la gouvernance du BJP et donc de Maudit, d'évolution et de mise en avant du pays et son économie. En revanche, ce que nous disent beaucoup de gens aussi, c'est qu'il y a énormément de chômage. Alors, pourquoi ? On est dans un pays qui a grandi très vite. Tu le disais, sa population a explosé. Donc forcément, il faut que l'offre et la demande suivent
s'accordent.
Et c'est pas tout le temps le cas. Et puis surtout, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc forcément, il y a un retard, il y a un manque à gagner, il y a un retard
et
à rattraper.
Et des déçus, forcément.
Exactement. Et je pense que chez les jeunes, moi j'ai rencontré des jeunes étudiants, il y a cette crainte du « mais va-t-on trouver un travail ?» Et je pense que tout se fait en un certain temps. Quand on regarde ce qui s'est passé dans des économies similaires, c'est-à-dire par exemple en Chine, qui a eu un énorme boom pendant 20 ans, en fait, peut-être que ça va prendre 20 ans pour l'Inde, mais il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Juste, il faut que ça suive.
On est sur une population très connectée aussi. Les médias, les réseaux sociaux, ils jouent un rôle particulier dans cette élection ?
Alors, c'est très compliqué parce que, justement, je pense que les médias sont de... Et c'est ça aussi qui contribue à cette image négative de Maudit et de son gouvernement. Les médias sont de plus en plus contrôlés. Il y a énormément de propagande d'État. Il faut savoir que... En Inde, beaucoup de médias sont dirigés, les actionnaires sont des grandes compagnies. Voilà, je ne te fais pas de dessin comment ça se passe. Et donc, il y a un peu plus de... Ça se resserre. L'étau se resserre petit à petit et les gens le ressentent beaucoup. Après, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, ils sont très connectés. Et il n'y a pas des interdictions comme il peut y avoir dans d'autres pays du monde qui ont des restrictions pour leurs réseaux sociaux. Donc, ils ont accès quand même à tout. Donc, c'est un choix aussi. On peut choisir de suivre ce que les gouvernements, les médias d'État, on va dire, mais je mets vraiment des gros guillemets, c'est vraiment pour, je grossis le trait, disent, ou on peut aussi aller chercher l'information de manière assez libre. On n'est pas dans une dictature non plus. Et effectivement, tout le monde a un smartphone, tout le monde est connecté, tout est sur tablette, c'est hallucinant, comme dans beaucoup de pays, mais c'est vrai que c'est très présent.
Est-ce que toi, en tant que journaliste, tu as été empêché de travailler ou pas ?
Pas du tout. Moi, j'ai aussi fait les bonnes démarches, c'est-à-dire que j'avais mon visa de journaliste que j'avais demandé à l'avance ici à Paris. J'y suis allée avec mon visa de journaliste. C'est bien écrit sur mon visa que je ne peux couvrir que les élections de 2024. Noir sur blanc. Et j'ai pas du tout eu de soucis. Et pourtant, tu vois, on avait une voiture, on avait écrit presse, on est quand même allé dans un bureau de vote, dans plusieurs bureaux de vote le 19, le jour même. On était à l'extrême ouest de l'Uttar Pradesh. Pas de problème du tout. Moi, j'ai pas du tout ressenti ça. Mais encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui vient en envoyé spécial, donc de manière complètement ponctuelle, pendant une dizaine de jours.
Et on sait que ce n'est pas la même chose pour les journalistes.
Exactement.
Qui sont établis depuis plusieurs années dans le pays.
Exactement.
Je veux bien que tu me dises un mot aussi. Je sais que tu as travaillé sur l'environnement, un gros sujet pour le pays. Alors, je crois qu'il y a 6 des grandes villes de l'Inde qui font partie des plus polluées au monde. L'environnement, c'est aussi un thème de campagne ?
Alors, justement, pas tant que ça. Et moi, ça m'a beaucoup intriguée parce qu'effectivement... Nous, en tant que journalistes extérieurs, ne vivant pas là-bas, c'est un peu l'image qu'on s'en fait aussi, c'est de se dire l'Inde est un pays quand même très pollué, un peu comme la Chine il y a une vingtaine d'années, voire une dizaine d'années, on va dire. Tout en sachant donc que c'est possible de faire quelque chose, puisque la Chine a réussi à faire quelque chose par rapport à sa pollution. Pékin n'est plus du tout aussi pollué qu'elle pouvait l'être il y a 15-20 ans. Mais il y a un souci, il y a un manque de volonté politique. On dirait. Mais pourquoi ? Parce que c'est lié à l'économie, en fait. Et une fois qu'on fait le choix de vouloir mettre l'économie en avant, il faut faire des choix. Les quelques candidats à qui j'ai pu parler à Calcutta et Bénarès, c'est quand je posais la question, qui me disaient « Oui, évidemment, l'environnement, c'est crucial, etc. » Mais ça venait jamais en thème principal de campagne. Il n'y a pas de parti vert comme on peut avoir ici en France, par exemple. Ou alors, très, très peu. Et c'est vrai qu'en arrivant à New Delhi, on se dit « Waouh !» Quand même, c'est impressionnant, c'est une ville polluée, quoi. Et donc là, ouais, j'ai fait un peu de reportage, justement, je suis allée rencontrer des mères qui craignent pour la santé de leurs enfants, parce que voilà, New Delhi, tu le disais, c'est une des villes les plus polluées du monde, et effectivement, les conséquences humaines sont gigantesques. Je crois que à cause de la pollution atmosphérique, si je ne me trompe pas dans mes chiffres, c'est une espérance de vie de 6 ans que chaque habitant perd. C'est énorme, 6 ans, et alors quand ça commence, quand on est en bas âge, c'est exponentiel. Donc voilà, il y a du reportage là-dessus aussi. Et je pense que, de toute manière, il y a un moment, ça va être comme ce qui s'est passé en Chine en 2013. En 2013, en fait, la grogne était telle en Chine que les protestations étaient gigantesques. Et du coup, le gouvernement a dû se lancer et changer sa gouvernance et faire en sorte que ce soit pris en compte.
Cette grogne, tu as le sentiment que ça pourrait participer au fait que peut-être Narendra Modi pourrait ne pas passer ou pas ?
Non, pour le coup, c'est pas là. Je pense que c'est pas un des enjeux principaux. Ce sera pas cette année, en tout cas.
Merci beaucoup, en tout cas, Cléa, d'être venue me raconter ces reportages dans Témoins d'Actu. Je mettrai tous les liens, comme d'habitude, pour ceux qui veulent aller plus loin et écouter ces reportages. Et puis, on aura l'occasion de se reparler puisque tu vas partir pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur les plateformes de podcast. Ça donne encore plus de visibilité à Témoins d'Actu. Je vous dis à très vite.